Attention les oreilles. Attention les oreilles, une sélection de reportages long format, de documentaires, de podcasts, réalisés soit par Radio PFM, soit par d'autres radios associatives ou web radio.
Aujourd'hui, PFM vous emmène à la découverte du Frisson Festival, un festival gratuit qui met à l'honneur toute la littérature pour vous faire peur. Au programme, 40 auteurs, 10 maisons d'édition, de nombreux stands pour réveiller vos pires cauchemars les 28 et 29 octobre à l'Hippodrome de Reims. Rencontre avec l'équipe organisatrice.
Alors, je m'appelle Camille, je suis la trésorière du Frisson Festival et je m'occupe principalement des réseaux sociaux, donc tout ce qui est Instagram, le Facebook et je fais des montages et ce genre de choses.
Eh ben, Nils, secrétaire de l'association. De mon côté, je me suis occupé principalement du site internet, de notre petite boutique et de quelques visuels.
Et moi, je suis le dernier petit qui est arrivé à bord. Je suis membre bienfaiteur, c'est-à-dire que en gros j'apporte de l'aide à la team de base et je m'occupe aussi du TikTok. Pour l'instant, il est un peu en ralenti parce que j'attends vraiment le mois d'août pour attaquer, on va dire, la com par TikTok. Et je suis aussi auteur.
Alors, moi donc Philippe, président de l'association, donc cofondateur avec Nils. L'idée a démarré avec nous deux. Moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est relations publiques. Je voudrais rajouter, alors par rapport à Camille, c'est elle qui a créé le logo. Elle s'est occupée de la campagne Ulule. Elle l'a pas dit, mais c'est elle qui s'en est occupée aussi. Ouais. Nils s'est occupé aussi de toute la partie pas drôle du tout au départ, administrative, pour la création de l'association, la rédaction des statuts. Et Isaac, en plus de TikTok et des idées qu'il amène, il est aussi
journaliste,
auteur, mais il va aussi écrire des articles très prochainement, donc ils vont paraître dans différents médias, donc en temps voulu, voilà. Le Frisson Festival, il est né de cette passion commune. L'horreur, d'une manière générale, ça part de la littérature, mais c'est vraiment, je dirais, le genre horrifique en général. En tant que lecteur assidu, au fil des années, j'ai pu avoir la chance de rencontrer bon nombre d'auteurs et d'aller les voir sur différents salons, faire un peu le tour des salons. Et à chaque fois, je me disais, bon, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de salon qui représente vraiment le genre horrifique, quoi. C'était toujours soit généraliste, dans la plupart du temps, soit sur l'imaginaire, la fantasy, ou alors le polar, le thriller. Les auteurs d'horreur tentaient tant bien que mal de se greffer par-ci, par-là. Donc ça marchait plus ou moins bien. Des fois, bon, ils avaient quand même du succès, mais parfois ils étaient carrément refoulés puisque c'était pas du tout dans le thème du salon dans lequel ils voulaient aller. Et avec Nils, il était venu chez moi et puis on travaille. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien faire ça. Il m'a dit, moi aussi, tiens, ça me trotte. Et c'est là qu'on s'est dit, pourquoi pas.
Je me suis toujours trouvée impliquée parce que un soir, Philippe m'a envoyé un message en m'expliquant tout le projet, en me disant que il veut créer un salon de l'horreur et me demandant si ça m'intéressait en fait de faire partie du projet. Et on va dire que moi c'était un peu j'avais envie d'organiser quelque chose comme ça parce que les salons, moi j'adore faire ça. Et voilà, pour commencer, du coup je me suis retrouvée à créer un salon avec Philippe et Nils au départ.
Oui, allô.
Pourquoi refusez-vous de m'écouter?
Qui êtes-vous à la fin?
Dites-moi qui vous êtes, je vous dirai qui je suis.
Ah. Non, pas question.
C'est quoi ce bruit?
Du pop-corn qui grille.
Vous faites du pop-corn? Moi, je n'en mange qu'au cinéma.
Justement, je vais me regarder une cassette.
Ah oui? Laquelle?
Oh, je sais pas encore, un film d'horreur.
Pour la petite histoire, qu'est-ce que le Frisson Festival? C'est un festival littéraire, essentiellement au début, destiné à l'horreur, le paranormal, l'occulte, tous ces genres-là. Ça reste un salon essentiellement littéraire parce qu'on a principalement des auteurs. Après, comme on est tous des passionnés d'horreur au sens large, on a aussi d'autres gens que des auteurs qui vont nous rejoindre. Moi, pour la petite histoire, j'ai commencé à... Enfin, j'ai écrit un livre de fantasy. Philippe peut vous l'aider, parce qu'il s'est rendu compte en plus qu'on n'était pas si loin. Lui, il est de Reims et moi, je suis près de Chim, mais dans l'Aisne. Et on s'est rencontrés comme ça. Et par ce livre-là, j'ai fait quelques salons et j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'auteurs, et notamment qui font de l'horreur. Et je me suis dit, c'est vrai que du fantastique, il y en a plein, de la fantasy, il y en a plein, de la romance même, du généraliste. Et c'est quand même dingue que il y ait autant de passionnés d'horreur, autant d'auteurs français d'horreur, et qu'il n'y ait pas un salon qui soit dédié. Alors qu'en plus, on en a plein dans le Nord, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent soit du Grand Est, soit des Hauts-de-France.
Après,
Donc,
j'ajouterais que la particularité du Frisson Festival, c'est aussi d'accepter des auteurs qui sont auto-édités. Parce que malheureusement, dans le milieu des salons littéraires, il y a un petit peu d'élitisme. C'est-à-dire que si on n'est pas édité par une maison d'éditeurs, en tant qu'auteur, on a moins de valeur, ce qui est absolument pas le cas. Moi, je suis passé par l'auto-édition. Oui, ça, c'est auto-édité. Et c'est vraiment un salon qui est ouvert à tous les passionnés. Donc, il y a vraiment une inclusion, en fait, de tous les artistes, de tous les créateurs autour de l'horreur. Et je pense que c'est vraiment le côté très innovant de Frisson Festival là-dessus, c'est de ne pas fermer les portes aux passionnés et de vraiment encourager aux rencontres aussi. Parce que c'est vrai que pour une première édition, on a misé sur quelque chose, sur une programmation qui est très variée.
t'as raison de décorréler qualité et édition à compte d'éditeur ou auto-édition. Parce qu'on a, nous, dans nos amis et dans ceux qui participeront au festival, d'excellents auteurs qui sont auto-édités, qui ont refusé des maisons d'édition. Moi, j'ai été approché par certaines maisons d'édition, j'ai pas donné suite. Donc, pour le coup, c'était pas des maisons d'édition de grande qualité, mais n'empêche, j'avais envie d'être auto-édité. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire que être édité et faire de la qualité, ça va pas forcément ensemble.
Bien sûr, bien sûr,
C'est deux
bien sûr.
choses distinctes. Philippe, qu'on lit beaucoup d'auto-édités, moi je suis auto-édité, ça nous aurait semblé étrange de les refuser, quoi.
Je crois que j'ai fait une découverte capitale dans les vestiges cambodgiens. Un recueil concernant les pratiques d'inhumation des anciens sumériens et contenant également des incantations funéraires. Il est intitulé Padura de Montos, ce qui veut dire mot à mot le livre de la mort. Ce livre est relié en peau humaine et écrit avec du sang humain.
Grosso modo, hein, on ne peut pas donner de chiffres exacts, sachant qu'en plus, c'est pas forcément terminé. En auteur seul, donc en dédicace, entre 30 et 40, qu'ils soient auto-édités ou édités, hein, qui viennent à leur nom. En maison d'édition, à ce jour, je crois qu'on doit être à 7 ou 8. Donc, ils viennent chacune avec un certain nombre d'auteurs. Pour rester toujours dans le littéraire, il y a deux librairies spécialisées, hein, dont une que tu connais bien, puisqu'elle est de Arras, hein, les Gendariums, et une de Strasbourg, qui est pareil, spécialisée dans l'occulte, qui s'appelle Ocuré. Et il y aura deux bouquinistes, donc pour la partie livre d'occasion. Alors, vous voulez vraiment faire vraiment une fête autour du livre, majoritairement, puisque ça reste l'axe principal, hein, au niveau livre. Ça fait déjà un sacré paquet, quoi.
Comme parrain, on a Patrick Sénécal.
Et les auteurs seront présentés petit à petit sur TikTok avec des teasers et des trailers qui vont être diffusés petit à petit pour pouvoir donner envie, puis évidemment faire découvrir certains auteurs. Hein. On est plutôt fiers. Je pense qu'on a tous un petit collègue qu'on voudrait peut-être saluer en priorité, je sais pas.
Oh bah, on va dire que je suis déjà contente d'avoir réussi à convaincre Stéphane Grunewald, hein, parce que c'était pas il avait jamais fait de salon, donc c'était pas gagné, mais qui a écrit qu'un seul livre pour l'instant. On espère tous, je pense, en avoir un deuxième. Et puis au niveau côté nord, bon, il y a Merlin Lefranc du Bois.
De mon côté, je pense que la petite pépite, c'est Striga, qui est une auto-éditée aussi, qui accessoirement est devenue une amie, et qui est vraiment dans le gothique et dans l'écriture à l'ancienne, dans l'horrifique humain et paranormal. Et elle a cette plume qui me rappelle carrément du Balzac. Alors, ça nous est tous chier au lycée de lire du Balzac, mais là, ça me fait pas chier de lire du Striga. Et c'est une auteure qui est prometteuse, qui est en auto-édition, par choix. Et elle a vraiment tout un univers qui est très propre à elle, très sombre, avec une petite pointe d'Amélie Nothomb, d'Edgar Allan Poe. Donc, très fier d'être à côté d'elle, d'ailleurs, au stand, au Frisson Festival. Donc, si ça vous parle, venez. Et si ça vous parle pas, venez quand même.
Stéphane Donenwald, moi, j'ai acheté son oracle le premier jour. Un peu, juste sur la couverture, je sais pas, je sentais le truc, son compte Instagram me parlait. Et non seulement littérairement c'est vraiment un très bon livre qui m'a embarqué, qui m'a rappelé plutôt des références ciné d'ailleurs que littéraires quand je l'ai lu. C'est comment le film avec Anthony Hopkins sur l'exorcisme?
Le rite.
Ah ouais, il y avait vachement du rite dans le livre. Et voilà, un film que j'adore. Et ouais, vraiment, en plus pour lui avoir souvent parlé humainement, c'était un plaisir de le rencontrer, donc.
Moi, je suis super fier, au-delà des têtes d'affiche qu'on a annoncées tout à l'heure, je suis super fier d'avoir, par exemple, des auteurs qui viennent du parce qu'on a Patrick Sénégal qui vient de Montréal, mais il faut pas oublier non plus qu'il y a Dave Turcotte-Lafont et Pierre-Luc et Chantal Cool, des auteurs canadiens qui viennent spécialement pour le Frisson Festival. Je voulais aussi citer Oliver Croc, qui nous vient de Suisse, spécialement, mais que j'adore. J'ai eu l'occasion de lire plusieurs de ses livres, c'est juste génial. Anthony Lamacchia, qui est un auteur que j'ai connu il y a quelques années maintenant, et qui nous fait plaisir en plus de venir de Toulon. Donc pareil, et il remonte toute la France pour venir exprès. Qui est vraiment un auteur dont j'adore la plume. Frédéric Livens, bien évidemment. Est-ce qu'on peut le mettre dans les inconnus? Je sais pas maintenant, mais qui nous vient de Belgique. Enfin voilà, donc, tous ces auteurs-là qui font vraiment l'effort de venir de loin. Et, bon, bien évidemment, mon chouchou, c'est pas un secret, c'est Arnaud Codeville, quoi. Hein, certainement un de mes auteurs préférés. Ouais.
Thank you.
Le Frisson Festival, le 28 et 29 octobre, à l'Hippodrome de Reims.
On a lancé la campagne Ulule. En quelques heures, on était au 100%. Franchement, c'est parti super vite. Et au départ, on avait mis un plafond de 700 € qu'on a dépassé. Et on a eu environ un peu moins de 1 100 €, je pense. Donc franchement, c'était assez dingue comment les gens ont commencé à nous donner de l'argent comme ça pour un événement auquel c'est la première édition. Hein, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Et les gens avaient confiance en nous et c'était chouette.
Sur la partie externe, les autres soutiens financiers viennent principalement des maisons d'édition qui payent, puisque les auteurs qui viennent en indépendant, on a fait le choix cette année pour la première édition de pas leur faire payer la place. Mais on s'est dit sur une première édition, on n'a pas de recul, personne ne sait ce que ça va donner. Donc si en plus on leur demande de payer, sachant qu'ils ont des frais de déplacement, des frais d'hébergement en plus, donc pas. Par contre, les maisons d'édition, elles, ont leur demandé une participation et je tiens vraiment à les remercier. Ils nous font confiance, c'est-à-dire qu'ils font un investissement. Bien évidemment, leur investissement va au-delà de ce qu'ils nous donnent pour leur emplacement, puisqu'ils ont également les frais pour faire venir les auteurs, certains, ils payent les hébergements, etc. Et donc, c'est une marque de confiance qui est vraiment appréciable et c'est quelque chose que on n'oubliera pas, en tout cas, ça c'est clair. Enfin, on est vraiment dans une logique, encore une fois, passionnée. C'est-à-dire que si on nous fait confiance sur la première édition, ces gens-là, s'ils veulent revenir dans une deuxième édition, ils seront bien évidemment prioritaires. Personne viendra leur piquer la place, quoi. Hein, ça c'est clair.
Il y aura beaucoup de choses grâce au travail notamment de Philippe. Je vais commencer par la présence de nombreux cosplayers qui vont permettre aussi de se mettre dans l'ambiance horrifique, fantastique pendant la durée du salon. Après, sinon pour ce qui est des exposants, il y a notamment un tatoueur qui va venir, une équipe d'enquêteurs paranormaux, il y a une hypnothérapeute, il y a un distributeur européen qui distribue des DVD, des collectors de films, notamment de films d'horreur.
Une maquilleuse professionnelle.
Une maquilleuse professionnelle qui fait un taf de grande qualité. Il y a des artistes, des illustrateurs.
Il y a une créatrice de figurines en crochet.
Les petits monstres en crochet, c'est les mini-monstres, ça s'appelle.
Les mini-monstres. Ouais, donc, elle fait ça de manière artisanale et c'est vraiment super bien fait. Il y a le site La Quatrième Dimension, donc dont s'occupent donc les organisateurs du Bloody Weekend, donc qui vendent eux tout ce qui est produits dérivés de films d'horreur,
ouais. Voilà. De super qualité. Hein.
Il y aura aussi deux photographes qui seront présents, qui sont d'ailleurs de Arras également, et il y aura leurs photos un peu partout dans les salles en mode expo. Ils sont spécialisés un peu dans la photo sombre. Parfois même avec des montages Photoshop, une photo d'un escalier où on rajoute un enfant ou une femme en transparence qui évoque un fantôme. Enfin voilà, il y a de très très belles photos. Je suis en pourparlers donc avec aussi des stands pour Ghostbusters Project. Partie plus ludique, mais je trouve que ça rentre quand même dans le thème, hein. Ghostbusters, bon, c'est la pop culture qui a bercé notre enfance, mais bon, c'est les fantômes. Il y aura peut-être du Star Wars.
Puis il y aura la présence de notre spécial guest, la chaîne YouTube et Monstre de Film.
Flo et Tetel, qui se promèneront dans le salon, hein, qui pourront échanger avec les gens. Grosse chaîne YouTube, hyper intéressante, puisqu'ils font des chroniques de films, mais des films où il y a des créatures. C'est drôle et en même temps très pertinent. Voilà. Ça me fait penser un peu au début du joueur de grenier.
Ouais, moi, ça va me faire penser à Crost ou Chroma aussi dans ce coup-là, avec un humour un peu, des fois, à la Astier aussi, mais vraiment, c'est...
Très, très bonne chaîne, et donc très content de les recevoir, parce que vraiment des passionnés. Quand je l'ai eu au téléphone, il était vraiment très flatté qu'on lui propose. Et ça fait plaisir de voir bah, des gens comme ça qui font entre 100 000 et 200 000 vues par vidéo et puis qui vous disent « je suis flatté », etc. Un peu comme Patrick Sénécal, hein, quand on lui a proposé d'être le parrain, il était tout... il était honoré, je lui ai dit, enfin, c'est nous qui sommes honorés. C'est pas... Il a un peu inversé les rôles, mais il était, il est honoré. Donc, bah, écoute, on est tous honorés. Voilà.
Vous avez oublié la plateforme de streaming Frixon aussi.
Ah oui, il y a Frixon,
oui,
VOD.
C'est vrai, bravo,
voilà, une plateforme de streaming spécialisée dans les films d'horreur, enfin, le cinéma de genre. La seule contrainte, il faut venir à cheval, puisque c'est à l'hippodrome de Reims. Plus sérieusement, donc c'est vraiment à l'hippodrome de Reims. L'avantage, c'est que déjà, bah, en termes de stationnement, bon, il n'y aura aucun souci, puisque le parking est juste gigantesque. On a les trois salles, puisqu'au départ, on en avait loué deux, et très, très généreusement, le président de l'hippodrome de Reims, donc, que je remercie vraiment du fond du cœur pour cette première édition, nous offre la troisième salle, enfin nous l'offre, nous permet d'utiliser la troisième salle gratuitement,
ouais,
accessible bah, par l'escalier, par ascenseur, par monte-charge.
Oui, j'allais dire, il y a un accès PMR.
Ah oui, il y a un ascenseur,
l'escalier fait 4
mètres de large, enfin... Pour la petite histoire, le parking public est fait pour accueillir les jours de course 110 semi-remorques.
Ça devrait aller, je pense. Après, sinon, oui, donc ça fait...
Et c'est pas l'unique parking. C'est pas l'unique parking. Ça sera le principal, mais en plus, il y a d'autres parkings encore.
Il se jetait au cœur de la mêlée, fauchant les têtes au grand galop. Il avait limé ses dents en pointes acérées pour ajouter encore à la férocité de son apparence.
Le lieu déjà va être embelli par la présence des artistes, des cosplayers, ce que nous on va y mettre et tout ça. En plus, c'est deux belles grandes salles. Enfin, après, du coup, on a ajouté la troisième qui est un petit peu plus petite. Mais deux belles grandes salles avec une grande baie vitrée, alors certes qui donne sur la ville, mais qui donne, voilà, c'est un endroit qui est joli quand même. C'est vrai qu'au début on se posait la question du lieu, on a envisagé des lieux plus insolites, mais après il faut avoir les autorisations, les fonds qu'on n'avait pas, et puis on avait pensé même à un cloître. Et après la possibilité pour l'église d'accueillir un festival dédié à l'horreur, on n'était pas sûr que ça passe nécessairement.
Et de toute façon, ils étaient en travaux.
Ils étaient en travaux, en plus. Ouais.
Je les avais contactés quand même, mais ils sont en travaux pendant un an et demi.
Et l'hippodrome est facilement accessible aussi en transport en commun. Il y a
le tramway qui passe juste devant.
Call. Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Ow, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call?
Ghostbusters!
If you're all alone, pick up the phone and call.
Ghostbusters!
I ain't afraid of no ghosts. I hear he likes the girls. I ain't afraid of no ghosts.
Le Frisson Festival, le 28 et 29 octobre, à l'Hippodrome de Reims.
Événement-là, tel qu'il est créé, il n'y a pas besoin d'autorisation. Donc, on n'a pas ces contraintes-là. Par contre, j'ai quand même écrit à la mairie de Reims. Et justement, il y a deux ou trois semaines maintenant, j'ai reçu un appel de l'adjoint au maire chargé à la culture, donc il m'a appelé personnellement. Pour me dire que le maire avait eu connaissance de mon mail où j'expliquais ce que l'on faisait, et pour me dire qu'ils étaient vraiment enthousiastes. La loi en France ne permettant pas de subventionner les associations leur première année, mais par contre qu'ils allaient vraiment nous accompagner dans la communication. Et de là, on a commencé à recevoir des mails d'organismes, de bibliothèques par exemple, ou des choses comme ça. Qui nous ont dit que donc ils avaient eu l'information par la mairie et que donc qu'on n'hésite pas à leur transmettre dès que tout est prêt les affiches, les flyers, etc. Ils vont faire des articles dans les gratuits, ça sera publié aussi sur les différents réseaux de la ville de Reims et les agendas de l'adjoint à la culture et du maire de Reims sont bloqués pour venir le jour J.
Ça participe au rayonnement de la ville, en fait, hein. Aussi, leur faire venir des gens à l'international, comme on a dit tout à l'heure, et puis pour des locaux aussi. Donc, c'est tout
Ouais,
bénef
puis
pour la commune, quoi.
pour la petite histoire, Reims, dans les années 80, 90, c'était appelé la belle endormie parce qu'on disait qu'il ne s'y passait pas grand-chose. Et
Là,
là,
on
ça
parle
fait
de l'étonnement.
voilà, ça fait une vingtaine d'années que Reims essaye vraiment de se dynamiser, d'avoir une vie culturelle. Il y a eu le TGV qui nous a rapprochés de Paris. Il y a l'Arena qui a été ouvert récemment. Avant ça, il y avait la cartonnerie. On a un centre dramatique national, la Comédie. Voilà, donc ouais, c'est vrai que bien, ils ont pas pu nous soutenir financièrement parce que c'est la loi. Par contre, ils ont au contraire, ils ont été plutôt soutenants et c'est bien accueilli par la ville en tout cas.
Bonjour Dani. Viens jouer avec nous. Viens jouer avec nous, Dani.
Avec la troisième salle qui s'est greffée, je crois qu'on doit être autour de 600 ou 700 personnes en même temps dans, voilà, en même temps. Alors après, bon, si on arrive à ce niveau-là, je serais déjà content. Enfin, en même temps, encore une fois. J'espère quand même le dépasser, allègrement sur le week-end. Par contre, alors, on n'a pas besoin d'autorisation, etc. Mais on veut quand même faire les choses bien. On a un certain nombre de bénévoles donc, qui sont déjà prévus, et notamment deux personnes qui seront à l'entrée, puisque notre idée, c'est de faire, puisque la structure le permet, de faire entrée et sortie au même endroit. L'accès est suffisamment large et il y a une séparation au milieu qui permet de faire un côté entrée, un côté sortie, de manière à ce qu'on puisse nous vraiment réguler et avoir conscience en permanence du nombre de personnes qui est à l'intérieur de la salle, c'est-à-dire que les deux personnes à l'entrée auront entre autres pour mission de pointer et donc ils auront des petits gadgets là pour pointer le nombre d'entrées, le nombre de sorties pour savoir à peu près à combien on est, et si vraiment ça déborde, de faire patienter les gens en disant, attendez, il faut d'abord laisser sortir un certain nombre de personnes, quoi.
Après, l'idée, c'est de le faire quand même de façon la plus fluide possible pour que les personnes ne soient pas mal à l'aise. Bon, il va y avoir une gestion qui se déroulera dans les meilleures conditions parce que je pense qu'on est quand même dans l'expectative que ce soit un grand événement finalement, que ça nous dépasse un petit peu, ce qui peut se produire ou pas, mais dans le cas, comme tu l'as très bien dit, Philippe, il y aura une gestion, des personnes pour que ça reste une très bonne expérience pour tout le monde.
Ils auront une autre consigne, ces personnes à l'entrée, mais bon, on communiquera là-dessus, mais ça sera aussi de surveiller et de vérifier un peu les personnes qui seraient susceptibles de venir avec des sacs remplis de livres venant de chez eux. Je pense notamment au Pocket Terreur, parce que l'idée, c'est pas non plus de venir avec 20 ou 30 livres de sa bibliothèque pour faire signer, alors déjà par respect envers l'auteur, qui franchement, au bout d'un moment, il en aura un peu marre, par respect envers les autres personnes qui vont attendre derrière, et surtout par respect envers les maisons d'édition qui font l'effort, qui financent la venue de ces personnes-là. Il y a des nouveautés, donc l'idée c'est quand même de vendre les nouveautés et pas de venir signer les vieux Pocket Terror qu'on a dans nos bibliothèques. Et donc, on va limiter à 2-3 grands maximum les livres de l'extérieur. Pour l'avoir vécu, moi, dans d'autres salons, c'est franchement très, très désagréable.
Il y a un côté aussi assez malaisant, bon, j'aime pas du tout ce mot, mais on va dire dégradant pour les auteurs qui n'ont pas justement de public ou qui sont totalement méconnus, c'est d'avoir une file d'attente immense devant un auteur et puis le désert de Gobi devant le stand d'un autre auteur.
Surtout ça.
C'est vraiment une valeur, en tout cas, que je retrouve dans notre équipe, c'est le côté égalitaire, quoi. C'est-à-dire que même si effectivement on a des très grands noms et on est très fiers et on reconnaît volontiers leur grande qualité et leur réputation, il faut quand même qu'on parte du point de vue qu'on est quand même assez sur un pied d'égalité.
Certains salons ont pris le chemin de faire payer les livres qui viennent de l'extérieur. Nous, bien évidemment, on ne fait ni payer l'entrée, on ne va pas faire non plus payer les livres de l'extérieur, mais on va par contre les limiter, voilà, comme histoire que bah, ça soit fluide et que ça aille vite et qu'il n'y ait pas des queues.
Je suis votre plus fervente admiratrice. Vous n'avez aucune crainte à avoir. Ça va aller mieux. Je vais bien m'occuper de vous. Je suis votre plus fervente admiratrice.
Je vais parler d'une expérience que j'ai vécue très récemment, puisque c'était le 20 et 21 mai dernier, puisque j'étais donc gentiment invité pour faire la promo du Frisson Festival, donc au festival Bloody Weekend. Et j'étais surpris par le nombre d'enfants qui étaient avec leurs parents et des enfants notamment costumés. Il y avait des petits ça. Il y avait des petits Pennywise. Il y avait des voilà. Il y avait vraiment de tout. Enfin, après moi, là je vais parler pour moi, mais c'est sûr qu'à 8-9 ans, j'avais déjà vu des films comme Halloween, Christine. J'ai vu L'Exorciste à 10 ans. Enfin, voilà quoi, ça me faisait pas forcément peur. Maintenant, bien évidemment, que notamment sur les affiches, on préviendra que ça reste quand même un événement littéraire, enfin en tout cas dédié au genre horrifique. C'est normalement pour un public averti, quoi. Donc attention, surtout qu'il y a des cosplayers, ça peut heurter la sensibilité des plus jeunes. S'ils se retrouvent face à Pyramid Head, Silent Hill, il peut impressionner.
Après, comme tu dis, Philippe, le côté famille fait que l'expérience peut être très positive et justement permettre aux enfants de comprendre qu'effectivement, c'est faux. Bon, moi, je fais du cosplay depuis 2008 et j'ai déjà fait du cosplay d'horreur, notamment des licences Resident Evil. Bon, je le prononce à la française, mais Resident Evil, Silent Hill, etc. Et c'est vrai que les enfants sont très curieux et sont même en fait moins peureux que les adultes, étrangement. Et je pense que ce genre d'initiative, c'est-à-dire aller au Frisson Festival avec des enfants, quand on est parent, je pense que ça peut être justement une très très bonne expérience de pouvoir montrer que c'est pas malsain, c'est pas voilà, il faut que ça reste quelque chose qu'on explique aux enfants. Au même titre que tous les autres genres, parce que finalement l'heroic fantasy ça peut faire peur aussi, la romance aussi, c'est des relations qui sont abusives et qu'on les vend comme quelque chose de très romantique, bon bah c'est pas toujours le cas, mais pour l'horreur ça peut être une super expérience pour les enfants de pouvoir grandir et apprendre grâce à des à une morale basée sur l'horreur. Le monde réel est parfois un peu plus flippant, donc
dans tous les cas, après, c'est voilà, nous on n'est pas là pour donner des leçons. Chaque parent éduque son enfant ou ses enfants de la manière dont il juge la plus correcte. Si des parents veulent venir avec leurs enfants, on va pas les interdire. S'ils viennent, c'est en connaissance de cause, quoi. Ils savent à quoi s'attendre. Nous, on va pas aller démarcher les écoles primaires en disant venez les enfants, ça va être drôle, venez on va flotter.
Oh quelle horreur. Super bien trouvé par contre.
non on donc le public cible reste bien évidemment adulte. Maintenant après vient qui a envie de venir, c'est vraiment ouvert à tous, hein.
And only Satan knows the devil's swing. And when he comes for you, oh, there's nothing you can do. It's time to dance with death. And this you can't deny. No, it's no good just to try. Oh, it's do or die. The devil's swing. Thank you.
just to shake his tail. Oh, you'd better beware. The devil's swing, and the devil's got his tricks. Oh, when he shakes his hips, he yells, six, six, six. The devil's swing,
and when he comes for you, there's nothing you can do. It's time to dance with death.
The devil's got his moves when he drinks that no good booze. Oh, you're bound to lose. The devil's swing.
Le Frisson Festival, le 28 et 29 octobre, à l'Hippodrome de Reims.
Bien évidemment, quand tu parles d'un festival d'horreur à un auteur d'horreur, tu ne vas pas le choquer. Par contre, effectivement, par rapport aux autres personnes avec qui j'ai été en contact, que ce soit... Bah la salle, hein, l'hippodrome par exemple, quand je leur ai dit voilà, on voudrait louer l'hippodrome pour faire un festival dédié à la littérature horrifique. Ah, au début, on regardait avec des gros yeux, quoi. On dit bah mince, c'est un peu bizarre. Alors après, bon, on peut jamais vraiment être dans la tête des gens, mais j'ai souvent ressenti de prime abord ce côté surprise. Par contre, j'ai pas eu de frein où on m'a dit non, c'est hors de question, je veux pas entendre parler de ça. Encore une fois, même la mairie de Reims, qui est quand même une ville de presque 200 000 habitants, je veux dire, c'est pas une petite ville. Ils auraient très bien pu dire, écoutez, nous, on n'est pas trop, on va pas trop vous suivre sur un truc comme ça, parce que vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis de je sais pas quoi, enfin voilà, c'est de l'horreur, etc., patati patata. Bon, au contraire, ils sont enthousiastes, donc mais comme j'expliquais dans le mail que j'avais fait pour le maire, hein, c'est que l'idée, une des idées en tout cas du festival, c'est justement de démystifier un peu ce côté le côté du genre, enfin le démystifier le genre horrifique. Enfin, je sais qu'on peut souvent avoir des remarques de personnes, que ce soit pour les passionnés de films, de livres ou des nœuds, que beaucoup de gens disent « Ah ben, je comprends pas comment tu peux aimer ça. » Ça, c'est une remarque qui revient souvent, en fait. Comment tu peux aimer ce genre-là, c'est violent, c'est ceci, c'est cela. Oui, mais c'est un goût comme un autre, quoi. Enfin, je veux dire, il y a rien de...
Pardon, mais vas-y. Le paradoxe, c'est que les gens vont te reprocher ça, alors qu'un des contenus les plus consommés, c'est le true crime. Que ce soit en bouquin, ouais, en vidéo YouTube, en émission de télé. Mais ça pose pas question aux gens. Et c'est vrai que tu peux retrouver un peu les mêmes clichés que tu retrouves quand t'écoutes de la musique métal. Exactement. Et tous ces dérivés.
Après, je trouve vraiment qu'il y a une nouvelle génération. Alors, je pense que un des moments et un des moyens les plus intéressants pour jauger ce que les gens aiment et ce que les générations aiment, c'est effectivement les réseaux sociaux. Et on voit vraiment une résurgence de la créativité, de l'horreur, surtout sur YouTube avec, je pense notamment à des très jeunes youtubeurs comme Feldoup, ouais, qui est fan de found footage et d'ARG, de mystères d'internet, et c'est très très bien parce qu'en fait cette créativité elle commence en fait à revenir, et petit à petit on est en train de briser un peu le cliché, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette ouverture, qu'on a cette acceptation petit à petit, c'est que les gens commencent à réaliser que oui, on peut faire de l'art avec du dégueu, on peut faire des belles choses, et j'ai envie de citer un peu Baudelaire, mais tout ce qui est bizarre est beau, tout ce qui est beau est bizarre, quoi. Donc il y a un peu ce côté à la team. Pourquoi est-ce que les gens vont valoriser du Tim Burton mais vont se fermer à de l'horreur? finalement, Tim Burton, bon, je parle vraiment de l'ancien, il a quand même, il s'est basé sur du surréalisme allemand, des choses qui sont ultra niches et qui ont explosé. Et je pense que les gens commencent à intégrer un peu ces petits codes. On est de moins en moins une niche, finalement, dans l'horreur.
Moi, j'aime beaucoup ce qui va traiter du paranormal, tout ce qui va être un peu mystique, un peu occulte, ce genre de choses. Philippe sera encore plus fan que moi, mais en cinéma, il y a les slashers. Et vraiment, le slasher, c'est vraiment un genre qui m'a toujours plu.
Et c'est génial, alors que c'est très mal vu. Les slashers, c'est vu vraiment comme une facilité narrative et scénaristique, alors que t'as une t'as une pléthore de scénarios, d'atmosphères à créer. Mais c'est vrai qu'au niveau cinéma, c'est très mal vu, les slashers aujourd'hui, c'est considéré comme des nanars. Alors que c'est pas du tout le cas.
Le fan footage, c'est génial comme concept, oui. Initialement. Okay. Et sauf que les producteurs s'en disent, ouais, c'est trop bien, on filme une caméra à un mec qui s'est pas filmé et on va faire du pognon avec ça, tu vois.
Ouais.
Et, mais un fan footage qui est bien fait, qui est bien pensé. Moi, j'ai été choqué par le projet Blair Witch, par exemple, quand j'étais tout petit, enfin, tout petit, j'étais jeune. Et c'est un truc qui est génial. Après, forcément, t'en as eu une chier, à chier, pour le coup. Mais et Slasher, c'est un peu pareil. T'as des... C'est un genre que j'aime beaucoup.
T'as des bons et des mauvais.
Voilà, c'est ça.
La forêt, à l'époque de Halloween, s'affiche la chair de poule à tout le monde. Je veux pas d'artifice. Ce que je veux surtout éviter, c'est les clichés. Je veux présenter ça d'une façon aussi simple et directe que possible. Je trouve que la légende est assez inquiétante en elle-même.
Et sinon, oui, pour finir dans l'horreur, l'aspect gothique, par exemple, un film comme Crimson Peak de Guillermo del Toro, c'est un film qui, est un de mes films préférés, qui visuellement m'a marqué. Disons Guillermo del Toro aussi, L'Labyrinthe de Pan. Voilà, c'est toute une imagerie qui me parle énormément.
Bah en fait, on va dire que c'est la même chose que Nils, tout ce qui est paranormal, surnaturel, les slashers bien évidemment. Peut-être aussi un peu les horreurs psychologiques, j'aime encore assez bien aussi.
Je sais pas pour vous, mais moi j'ai grandi, c'est con, mais avec les chairs de poule, avec les contes de
la crypte. Ah oui, oui.
Vous allez rire, mais même avec Scooby-Doo un peu.
Non, mais dans les années 90, de toute façon, tu compares... ce qu'un gamin regardait dans les années 90 et là, le gamin, il est traumatisé à vie, hein, si tu lui fais regarder ce que nous, on regardait.
J'en voyais c'est con, mais la série Batman, qu'on a connue.
Oui,
ouais, et qui était quand même sombre, tu vois, ne serait-ce que l'imagerie, même certains dialogues, certains trucs. En fait, je pense qu'on est, en plus, on a grandi avec Internet, donc avec les légendes d'Internet, les premières creepypasta, les trucs comme ça. Avant qu'il y ait beaucoup de travail de debunk et tout ça sur des vidéos fake, soi-disant des archives qui sortaient de trucs d'aliens, de machins, de dames blanches en Espagne, de tout ça. Enfin, moi, en tout cas, il y a même eu cette sombre, très sombre époque de Rotten, pour ceux qui ont connu, où c'était le défi d'aller faire le débile sur Rotten. Bon, ça, je conseille à personne, vraiment. Mais je veux dire, on a eu tout ce... Je pense qu'on est une génération qui a grandi avec ça. En plus, on a eu le dernier souffle mainstream du métal avec le néo-métal, le nu-métal. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a un peu cette génération et que du coup, bah, arrivé 25-30 ans, bah, on a des trucs à dire, quoi. Un peu comme la génération Internet, tu vois. Et puis, et du coup, on est plein à avoir eu envie d'écrire de l'horreur et assumer cet amour du bizarre, de l'étrange.
C'est pas un point de vue très scientifique.
Oh, mais qu'est-ce que c'est, la science? Des faits? Mais moi aussi j'en ai des faits. Tenez, j'en ai 25 000. Ah, pluie de sang à Messine. Roue lumineuse dans le ciel d'Écosse. Soucoupe volante. Ah, bah des faits.
Ah non, non, des coupures de journaux.
Des faits.
Il y a la créature d'Alien qui m'a terrifié. Mais alors, terrifié encore aujourd'hui, c'est des films.
Qu'est-ce qu'il a bien vieilli, le 1, là, je l'ai revu il y a une semaine.
Ah ouais, non, mais
Incroyable. C'est un chef-d'œuvre.
c'est génial, vraiment. Et sinon, en littéraire, j'ai été d'abord obligé en bac anglais de lire Frankenstein.
Il y a pire,
Et
hein.
non, mais au début j'étais obligé. Et en fait, j'ai découvert
Ouais,
Frankenstein
ouais.
de Mary Shelley et la créature de Frankenstein. Mais aussi parce que justement, c'est pas juste une créature horrible, c'est aussi un être vivant qui se pose de tas de questions et qui est la manifestation physique de beaucoup de craintes, de questionnements, de chercher un sens à la vie. Donc voilà, c'est l'opposé d'une créature alien qui bute tout le monde et qui se pose pas de questions. Mais c'est vraiment ces deux créatures qui m'ont marqué.
Moi, je vais partir sur ça, hein, de Stephen King.
Gripsou.
Pennywise,
Est-ce qu'on dit Gripsou en québécois? Ou c'est Pennywise dans la version
demandera à Patrick Sénécal.
anglaise? Ouais, je vais lui poser la question parce que je l'ai lu qu'en VO. Du coup, je sais pas si c'est Gripsou en VF et Pennywise
Bon.
en je sais pas, je...
En VF, c'est Gripsou,
C'est
maintenant.
Gripsou, ouais. Moi, ce sera sans conteste Hannibal Lecter puisque je suis un très 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 grand fan de d'Harris et de la série d'Anthony Hopkins qui est mon acteur préféré. Je me suis fait même tatouer la fleur florentine puisque bah j'ai fait le tour de Florence pour les lieux de tournage d'Hannibal, pas le Silence des Agneaux mais Hannibal, donc Hannibal Lecter qui incarne une forme de dandy moderne et puis il y a une espèce de tabou autour du cannibalisme avec ce paradoxe de l'esthétique très très élégante de cet art qui est si fin et qui est si beau avec le sujet le plus atroce auquel on peut penser.
Tant qu'on est dans les tatouages, moi, il est là.
Allez, on le voit bien là.
Les gens ne pourront pas le voir, donc il faudra venir au festival pour le voir, parce que pour la petite histoire quand même, c'est un format tatou flash. C'est le tatoueur du festival qui me l'a fait justement pour me montrer ce que ça donnait un tatou flash. Donc venez si voilà. Donc c'est Michael Myers, moi, voilà, de très loin mon personnage préféré. Je suis un fan inconditionnel depuis Michael Myers de 78 de John Carpenter, hein,
Oui,
voilà.
évidemment.
Et j'aime beaucoup en autre créature, alors Alien a été dit bien évidemment, donc je vais pas le redire parce que ça va pas être très original. Bien évidemment, Alien 1 et 2 sont juste deux chefs-d'œuvre. D'ailleurs, pour moi, le 1 et le 2, pour moi c'est un grand film en fait. Pour moi, je les regroupe. En fait, c'est un film. Ils sont tellement extraordinaires. Mais j'aime beaucoup Predator. La créature de Predator, je la trouve vraiment excellente.
Il y a un petit air entre les deux. Hein.
Bah, on les a même rassemblés. Alors, plus ou moins bien.
Ah ouais, ne me rappelle pas cette souffrance.
Non. C'est pas une grande réussite. Bon, le premier à la rigueur, bon, mais. Les Predators, le premier avec Schwarzenegger est génial. Hein. J'adore, j'adore.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No putting me down. A spell on you. Because you're mine. Oh, yeah.
you do. What's up? I lie. Oh, oh, I love you. I love you. I love you. Anyhow, I don't care if you don't want me. I'm yours right now. I put a spell on you.
Le Frisson Festival, le 28 et 29 octobre à l'Hippodrome de Reims.
Qu'est-ce que je recherche? Je crois que c'est parce que c'est l'un des genres où je retrouve de la manière la plus franche des vraies émotions humaines. Il se passe vraiment un truc. Peut-être parce que les personnages mis face à l'horreur sont vraiment eux-mêmes sans les apparats de la société, de ce qu'il faut être quand on discute avec les gens. Il y a un côté dans ce que moi je lis franc et puis profond, métaphysique presque.
Nous sommes des explorateurs pionniers des mondes inconnus de l'expérience, des démons selon certaines âmes, des anges selon d'autres, à vous de voir.
Ouais, c'est vrai que je lis pas de l'horreur spécialement pour avoir peur, déjà parce que je peux être sensible au cinéma d'horreur, je peux avoir des vrais moments de flip, j'en ai eu quelques-uns, notamment Conjuring, au dernier je pense, qui m'est vraiment effrayé par moments. Par contre, je lis pas de l'horreur pour avoir peur parce que j'ai jamais eu vraiment peur en lisant de l'horreur. Je me rappelle, vu qu'on parlait d'Arnaud Coteville, j'avais lu La Tour de Sélénite sur les conseils de Philippe, qui me disait que c'était l'un des rares livres qui lui avait fait à un certain moment vraiment peur, si je me souviens bien. Et j'ai pas ressenti ça, même si effectivement, par empathie, quand on lit le truc, c'est effectivement effrayant.
Je vais rebondir un peu sur ce que vient de dire Nils, puisqu'effectivement. Je cherche plus le frisson, parce que clairement, ça me fait pas peur du tout. Alors, par rapport à La Tour de Sélénite, effectivement, il y avait eu un ou deux passages qui m'avaient fait un peu frissonner. Hein. C'était pas. C'est un de mes livres préférés. Mais...
Ah, par contre, c'est un excellent livre, hein, je le précise. Ouais,
mais c'est pas le livre. Enfin, ça m'a pas empêché de dormir. Quoi, ça, je veux dire, c'est pas non plus. Mais il y a deux trois passages, je trouve, extrêmement bien écrits, qui sont assez flippant, mais moi ce que je vais rechercher déjà c'est l'originalité de l'histoire, voilà, quelque chose de novateur, quoi, pas un énième. On peut même par exemple si on prend le sujet d'une maison hantée, on peut trouver plein d'histoires différentes et être original, même s'il y en a déjà eu des dizaines et des dizaines des livres sur le sujet. Donc moi ça va être plutôt sur l'originalité et effectivement vraiment la psychologie des personnages, quoi. Que ce soit les personnages les bons et les mauvais, ou le méchant s'il y en a qu'un. Camille parlait tout à l'heure des thrillers psychologiques. Effectivement on peut mettre certains thrillers psychologiques dans la catégorie horreur, hein. Il y en a, c'est vraiment ça va loin, quoi. C'est assez poussé. Et effectivement, ce duel souvent entre l'enquêteur ou soit un personnage lambda qui se retrouve mêlé, enfin aux prises avec un tueur complètement psychopathe. Ce duel, je trouve ça vachement intéressant, quoi. Et surtout, comment il va s'en sortir, comment il va faire, etc. Et moi, ce que je recherche surtout, c'est la fin, quoi. Voilà, c'est une bonne fin. Et ça, c'est très très difficile à faire, contrairement à ce qu'on peut penser. Avoir une bonne fin dans un livre, c'est pas donné à tout le monde, quoi.
C'est vrai que ça, je suis d'accord avec Philippe. J'ai déjà lu des livres où j'étais vraiment passionnée dedans par l'histoire. Il y avait des petits trucs qui faisaient que bah, ça faisait un peu peur ou genre de choses où ils mettaient vraiment une ambiance. Et puis là, t'as une fin qui est ouf comme ça. Et fait... non, je veux pas cette fin-là.
Oh Zinedine, pas ça.
Pas du tout avec
pas ça, Zinedine. Non. Oh non.
Alors après, quand je dis une bonne fin, je parle pas de happy end. Hein. Attention.
Non.
C'est une bonne fin dans le sens où une fin cohérente, mais qui, alors idéalement, qui nous ferait ouvrir la bouche en disant « Waouh, je m'y attendais pas », ou alors une fin un peu ouverte. Ça, j'aime beaucoup ça, mais il faut que ça soit bien fait. Par contre, hein, ça, c'est très difficile comme exercice, mais une fin qui laisse l'imagination au lecteur, en fait, de se faire sa propre idée, quoi. Mais pareil, il faut que ça soit bien fait. Si c'est mal fait, c'est raté.
Le Frisson Festival, le 28 et 29 octobre, à l'Hippodrome de Reims.
Everything I do, I be 10 steps ahead. My youngin' got them bodies, she still pissin' the bed. Man. Keep the code of silence, don't repeat what I said. 21. Keep all the baloney, I just came for the bread. Oh God. My hood known for wildin' and I don't promote the violence. I done been through all the trials and tribulations, now I'm smiling. 21. Say you wanna smoke, we at the table doing the plot and we gon' slide. Wet your shit up, make it home for you, a siren. I'ma let them spin like a spiral. Straight up. I don't got no love for no rival. Straight up. Put him on the news, he went viral. Pussy. I took a number two with my rifle. Pussy. Every car I mean, I got the title. Slaughter gang, I turn a model to a hiker. I know they want me dead, I got a Kel-Tec in this Viper. I hit all the vibes on the low, cause I'm a sniper. 21. Even want no problems and it's obvious. Call me soft, cause I laugh when I body shit. Oh God. We play hot potato with the ops, we be dropping shit. 21. Giving out free smoke, cause we got a lot of 21. It. Trying to feed the fam, I was trapping in the cold. 21. Dropped a mixtape, turned around, I was on the road. Okay. You can't give me no amount of money for my soul. 21. He wasn't really no robber, he got killed cause he won his role. Facts. Matt 90 poking out my Goyard. Diamond back poking out my Louis V. LV. Nigga, fuck your Glock, we shoot bitch, chop bitch dick. 76308 and 223.
21.
I'ma let him spin like a spiral.
21.
I don't got no love for no rival.
Pussy.
Put him on the news, he went viral.
Pussy.
I took a number two with my rifle.
21.
Every car I mean, I got the title. Slaughter gang, I turn a model to a hiker. I know they want me dead, I got a Kel-Tec in this Viper. I hit all the vibes on the low, cause I'm a sniper. I make sure the beef gets Swiss cheese.
21.
I'm from 20 East, where they killing thieves. Stones got my ears feeling like Christmas Eve.
Fat.
Before you bend over, baby, get on your knees.
Fat.
Drive by, jump out, then we tie die.
21.
Say a nigga touch me, that's a lie.
Big cow.
She fried, she fucked the game, we call her five guys.
Five guys.
I'm so high, I almost thought I skydive. I'ma let him spin like a spiral.
Straight up.
I don't got no love for no rival.
Straight up.
Put him on the news, he went viral.
Pussy.
I took a number two with my rifle.
Pussy.
Every car I mean, I got the title. Slaughter gang, I turn a model to a hiker. I know they want me dead, I got a Kel-Tec in this Viper.
21.
I hit all the vibes on the low, cause I'm a sniper.
21.
Le compte de l'association soit tellement rempli que je pique l'argent et que je m'enfuis au bar.
Mais non, mais c'était mon projet, ça. ben non, moi j'ai un objectif pour cette édition-là, et si j'y parviens, d'ailleurs je compte y parvenir, je serais très heureux, c'est de d'écrire la suite de mon livre Unité 6 et de pouvoir le présenter pour le festival. Surtout que j'ai dans l'idée de faire une édition spécial pour le festival, donc en édition limitée, qui sera en vente que ce jour-là et qui serait estampillé Frisson Festival. Donc voilà, c'est mon challenge à moi. Et si j'y parviens, parce que j'ai une vie bien remplie, franchement, je serais content.
Il est très très bon. Moi, j'attends la suite. Hein,
c'est une très bonne fin ouverte.
Mais ça sera pas la suite en plus. Vous avez pas compris encore.
Non, il y a deux projets autour. Il y a une. Je vous verrai. Je travaille un peu.
Mais bon, si t'aimes les histoires qui se passent dans les hôpitaux psychiatriques en mode paranormal, tu seras heureux.
Oui, parce qu'en plus c'est mon boulot, infirmier psy. Ça va probablement changer. Voilà, donc c'est basé sur du concret.
Oh bah moi j'espère vraiment que ça puisse continuer, qu'on puisse avoir un peu un salon qui soit connu et que ce soit des éditions qu'on attend chaque année avec impatience.
Bah, c'est vrai que déjà l'initiative de base de pouvoir construire un festival déjà qui fonctionne, qui se fait dans un premier temps, je trouve que la première marche, c'est bon, elle est gravie. C'est vrai que pérenniser le festival, ça ce serait un bon objectif.
Oui,
c'est de pouvoir se retrouver vraiment entre limite entre potes, parce que tout à l'heure on parlait de du côté festival, justement dans le mot festival, et pouvoir créer une communauté de fans quoi qui se retrouvent et qui se disent ah après son festival ouais il y a ça, et vraiment s'installer sur la scène de l'horreur durablement.
Bah c'est vrai que je me permets juste une parenthèse, c'est que c'est l'idée qui nous a réunis avec Philippe, et c'était notre volonté de faire avant tout des choix de passionnés pour attirer des passionnés et durer dans le temps, même si on devait rester tout petit. On préfère un truc tout petit et très bien qui ferait plaisir aux vrais passionnés qu'un truc forcément énorme. Ça nous a amené d'ailleurs parfois à faire des choix dans ce sens-là, et c'est ce qui est cool, c'est pour ça aussi qu'on est une bonne équipe, c'est que c'est ce qu'on a retrouvé avec Camille, avec Zach. C'est vraiment l'idée qu'on est des passionnés, on veut faire un truc de passionné, et s'il dure dans le temps, voilà, ce soit effectivement une référence.
Je peux juste rajouter quelque chose, bien évidemment, au-delà de l'aspect pérennisation, et on n'a pas vocation à prendre la place des grands festivals d'horreur, comme Gérard May, par exemple, enfin, on n'en est pas là, quoi. Mais moi, mon rêve immédiat, je dirais, qui est à plus court terme, c'est que le dimanche en fin d'après-midi, quand on se dira au revoir avec les exposants, c'est que je vois dans leurs yeux de la joie, de la reconnaissance, et qu'ils me disent de manière sincère qu'ils ont hâte de recommencer l'année prochaine. Ça voudra dire qu'on a réussi notre coup, quoi. Moi, c'est surtout ça qui me ferait le plus plaisir là dans l'immédiat. C'est mon objectif, c'est ça, puisque on fait pas ça pour gagner de l'argent, puisque c'est une association à but non lucratif. Donc moi c'est vraiment que voilà, que une très très grande majorité me dise ils ont passé un super week-end et que qu'on les mette tout de suite sur la liste pour l'année prochaine, quoi. Voilà.
I'll be back. Principalement la page Insta où on met tout dessus. Donc là, c'est frisson avec une majuscule et un S, _ festival. Le même nom pour la page Facebook. On a un site internet. Si je me trompe pas, Nils, c'est frisson avec un S-festival.com.
C'est ça.
Et il y a le TikTok où c'est
frisson. C'est pareil, c'est frisson festival au premier, pareil.
En un mot. Yeah.
C'était l'équipe du Frisson Festival, festival gratuit des littératures horrifiques, les 28 et 29 octobre, à l'Hippodrome de Reims.
Retrouvez chaque semaine sur Radio PFM une sélection de podcasts dans l'émission Attention les oreilles. Documentaires, reportages long format, fiction, des émissions réalisées soit par PFM, soit par d'autres radios associatives ou web radios. Attention les oreilles sur le 99.9, chaque semaine, le mardi à 23h, le jeudi à 14h et le dimanche matin à 10h.